Bonjour et bienvenue à Je vais au ciné, votre émission sur le cinéma sur Studio ZEF. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Antoine.
Allô.
Bonjour Antoine. Et aussi, j'ai Mickaël.
Bonjour. Bonjour.
Aujourd'hui, on va avoir une chronique de Mickaël.
Oui.
Et j'ai toujours une petite surprise pour mes chroniqueurs.
C'est fou, j'ai une vanne, mais elle me vient pas.
Chaque film que nous voyons est regardé par le prisme de notre propre expérience. Avant tout critère plus ou moins objectif, c'est cette expérience propre à chacun qui nous fait qualifier une œuvre de bonne ou de mauvaise. Car oui, le cinéma résonne avec notre histoire personnelle, nos passions, nos craintes, nos révoltes. Grâce à cela, nous pouvons ensuite dire des choses comme « j'ai aimé l'histoire »,« j'ai aimé le ou les personnages » ou encore « c'est un bien joli film ». Mais quelquefois, tout cela ne suffit pas. Il arrive qu'une œuvre dépasse la simple dualité « j'aime-j'aime pas » pour n'être qu'une sensation. Un film qui laisse durablement un sentiment de vertige encore longtemps après le visionnage. Un film qui rentre dans votre histoire personnelle et qui devient une partie de vous. Un film qui, à sa simple évocation, vous renvoie à l'état qui était le vôtre durant sa découverte. Et pour moi, ce film s'appelle « Lost in Translation » de Sofia Coppola. J'ai vu ce film pour la première fois il y a 5 ans et depuis, il n'a cessé de me hanter. Depuis, j'essaie de comprendre pourquoi ce film, plutôt qu'un autre, a fait écho en moi. Sachant qu'au départ, je n'étais pas emballé à l'idée de voir ce film. Le statut de sa réalisatrice, Sofia Coppola, n'y est certainement pas étranger. Parce que le monde peut se diviser en 3 catégories pour l'œuvre de Sofia Coppola. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui aiment et ceux qui détestent. Il n'y a pas d'entre-deux. Les œuvres de ce genre d'artiste très tranchées sont rarement faciles d'accès. Mais au fait, de quoi ça parle? Bob Harris, interprété par Bill Murray, une star de cinéma sur le déclin, tourne à Tokyo un spot publicitaire. Dans cette ville et cette culture qu'il ne connaît pas, il se sent perdu. Il fait la connaissance de Charlotte, une jeune américaine qui loge dans le même hôtel. Délaissée par son mari photographe, Charlotte se prend rapidement d'affection pour Bob. Voilà en gros ce que ça raconte. Et en vous le racontant, je n'ai pas l'impression de rendre justice à ce film. Car c'est un film qui va bien au-delà de ce que le synopsis peut offrir. Difficile de définir la relation qui va progressivement se nouer entre Charlotte et Bob. Le fait d'être étranger dans leur environnement favorise leur rencontre. Cependant, c'est leur solitude et leur confusion dans leurs propres existences qui vont les rapprocher. Ces deux êtres, en quête d'un sens de la vie qui n'a pas été trouvé, Charlotte, ou qui a été perdu, Bob, se prennent par la main l'espace de quelques heures qui resteront sans lendemain. Les acteurs sont habités par leur rôle, que ce soit Bill Murray qui donne une interprétation touchante tantôt drôle, il faut voir avec quelle virtuosité il arrive à imiter Dean Martin, Roger Moore ou Frank Sinatra en une minute chrono, tantôt sarcastique mais toujours fragile, ou Scarlett Johansson qui n'avait alors que 17 ans, magnétique, évanescente et charismatique, il faut voir la scène terriblement juste où son personnage appelle à l'aide ses proches sans qu'elle soit écoutée. La photo aussi de ce film est particulière car Sofia Coppola fait le choix de ne pas tourner en vidéo classique mais avec un type particulier de pellicule à haute intensité permettant de tourner dans des lieux peu éclairés. C'est ce qui insinue dans l'image de ce film une apparence de souvenir ou de rêve. Et que dire de la musique? La bande originale est parfaite tant elle semble flotter au-dessus des images. Les enchaînements entre les différentes musiques sont tellement soignés que nous avons presque l'impression d'une longue suite planante, interrompue à propos par le plus punchy Too Young de Phoenix, un groupe français, qui illustre la soirée et nightclub que vont vivre les deux personnages. Hormis ce titre qui détonne, le reste de la BO poursuit cette veine solitaire où les titres éthérés ou doucement mélodiques sont propices à la rêverie. Une large place est faite aux Français avec Phoenix, donc que je viens de mentionner, mais aussi Sébastien Tellier et R, dont on a pu entendre un extrait de leur morceau Alone in Kyoto en début de chronique. Il y a aussi Kevin Shield, guitariste du groupe Bloody Valentine, qui compose 4 morceaux, dont celui que nous entendons en fond, intitulé Goodbye. La force de cette BO est de proposer un tout cohérent malgré une variété d'artistes très différents. Pour conclure, on peut simplement dire que c'est un grand film, mais qui n'en a pas l'air. Que ce soit la scène pré-générique iconique, les regards complices échangés entre les personnages ou le fameux secret murmuré par Bob à l'oreille de Charlotte, qu'on ne connaîtra jamais, chaque scène de cette œuvre, par sa poésie, sa subtilité, sa délicatesse, n'a pour objectif que de nous faire voyager, méditer, espérer ou ressentir, bref, simplement vivre.
Merci Mickaël pour ces moments reposants.
C'est bon.
On a perdu Antoine.
Samedi, c'est trop bon. Ce film est trop chiant.
C'est pas la peine d'en faire trop. Hein.
Et on remet le César à Antoine. Interprétation.
Meilleur acteur dans un second rôle.
C'était écrit, hein, en fait, avec Mika, que je pleurerais à la fin.
D'accord, ok.
Bien sûr.
On va enchaîner avec la chanson Brass in the Pocket de Pretender, la chanson que chante au karaoké Charlotte, le personnage joué par
Scarlett Johansson.
Je crois que c'est Bill Murray.
Bill Murray joue Charlotte, bien sûr.
Mais c'est ça qui aurait été intéressant.
À tout de suite.
Got brass in pocket, gunpowder, I'm gonna use it, intention, I'm feeling mental, gonna make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving, detour leaning, no reason.
Make it see.
Nous revoici à Je vais au ciné. On va enchaîner avec une critique. On va discuter sur Jackie Brown.
On va parler de Tarantino de manière générale et particulièrement de Jackie Brown. Oui. Voilà, on peut dire ça comme ça.
Oui. C'est peut-être l'un de ses films les moins connus.
Avec Boulevard de la Mort, ouais, je pense.
Boulevard de la Mort, il est connu surtout parce qu'il n'a pas marché.
Ouais. Oui, bon, d'accord. Ok. Peut-être lui, du coup. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine ? Je te sens dubitatif.
Non, je repense juste que j'ai fait une pâte là à cette émission, voilà, pour des raisons personnelles. J'aurais pu louper la première chronique, la première partie. J'aurais pu aussi louper la deuxième chronique. Non, j'ai pas de. En fait, moi, j'aimais Tarantino quand j'étais plus jeune. D'accord. Ce côté un peu survitaminé, ça flingue partout. Par exemple, j'ai vu Jackie Brown et j'ai revu aussi Reservoir Dogs. Et maintenant, je me rends compte que, ça me fait un peu chier, en fait. Enfin, autant Reservoir Dogs, j'arrive à lui trouver un intérêt, en fait. Mais Jackie Brown, pas du tout. Et j'en ai même pas vu, malgré tout ce qui se passe autour de. Il était une fois à Hollywood. Et j'ai pas envie de le voir, ce film, en fait. Enfin,
C'est le seul que j'ai pas encore vu. Je sais pas si je le verrai.
Je me rends compte qu'au final, j'ai rencontré Tarantino avec Pulp Fiction, que j'ai adoré, oui. Et que j'aime encore parce que je l'ai revu il y a pas longtemps.
Bah, puis c'est certainement son meilleur film, encore à l'heure.
Ouais, je sais pas, je suis pas fan, alors je peux pas. Enfin, je suis pas plus fan que ça de sa filmographie, mais par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Inglourious Basterds. Bon, moi, j'ai un problème de casting. En fait, moi, ce qui.
Brad Pitt ?
Non, Mélanie Laurent.
C'est pas le rôle principal, c'est Brad Pitt le principal.
Elle est présente. C'est,
oui, elle a pas mal de temps à l'écran, mais ça reste.
Et en fait, au final, je me rends compte que ce qui me reste, moi, de Tarantino, à chaque fois, c'est une scène dans ses films. Et le reste, souvent, j'oublie même.
C'est déjà pas mal s'il te reste une scène. Il y a des films où il te laisse rien.
Ouais, mais bon,
c'est même pas une scène.
Les 12 salopards, c'est pareil ce film.
Il y en a que 8.
T'en as rajouté 4.
C'est la durée ressentie, c'est le nombre ressenti. Ils sont combien dans cette baraque ?
Mais il dure 2h40, hein, les 8 salopards aussi. Ouais, c'est long.
Et c'est un des reproches aussi sur Jackie Brown. C'est trop long, en fait.
Ouais, Jackie Brown.
Ouais, il est long, mais je le trouve pas si inutile au niveau longueur.
On va peut-être rappeler de quoi ça parle.
Alors, ça parle d'une hôtesse de l'air qui se retrouve déplacer de l'argent pour un trafiquant d'armes.
Voilà.
Et puis qui finit par se faire choper par les flics parce qu'ils savent qu'elle le fait et donner ce trafiquant d'armes. Et elle essaye de sortir son épingle du jeu de tout ce bazar-là.
Mm-hmm. C'est ça. Chacun essaye de tirer sa couverture de son côté. Les flics d'un côté, le trafiquant de l'autre, l'hôtesse de l'autre.
De l'autre.
Voilà, c'est vrai que tout le nœud narratif du film tourne là-dessus.
Bah c'est finalement trois camps pour une même cause, en fait. C'est, chacun essaye d'avoir...
Pognon.
Le magot.
C'est ça. C'est un jeu en fait, c'est un film à magot, en fait. Hein. Oui. Voilà, il y a du pognon à récupérer, chacun le veut pour lui, et c'est à celui qui va être le plus malin. Je vais vous rejoindre sur ce qui concerne la durée. Pour moi, il y a une petite demi-heure de trop dans ce film. Il aurait pu raconter la même chose en 2 heures et pas 2h30, quoi.
Oh, même en 1h45.
Oh, non.
Je trouve qu'il y a des personnages, par exemple, qui servent à rien. La blonde, là, et puis Robert De Niro, ils ne servent à rien à part à se faire descendre à un moment dans le film. Enfin, et les scènes où on les voit, je les trouve pas intéressantes, en fait. Enfin,
ça amène comment la partie du trafiquant d'armes. C'est-à-dire que s'ils sont pas là, si on les monte pas, on voit pas tout l'intérêt du trafiquant d'armes et à quel point il peut être dangereux ou malsain.
Après, il aurait fallu réécrire le film parce qu'effectivement, on peut pas monter ce film-là sans ces personnages-là. Mais je trouve que... Ouais, et puis
sinon, il serait tout seul, et il n'est pas seul. C'est un personnage qui s'entoure de gens dont il connaît leurs points forts et leurs faiblesses. Maintenant, est-ce que Il est bon comme trafiquant. Est-ce que c'est un mec bien ou pas? On n'en sait rien.
Même, même les scènes de dialogue, il y a des scènes de dialogue qui sont vraiment. En plus, je trouve que c'est mieux filmé dans. Enfin, c'est mieux filmé dans Reservoir Dogs. Il y a vraiment ce qu'on appelle un peu maintenant du plan séquence. Alors, c'est pas des plans séquences parce que c'est des scènes de dialogue. Donc, mais la caméra, il
oui,
y a pas.
C'est pas du plan séquence.
Bah, un plan séquence, c'est un plan qui se coupe pas. Je veux dire, quand t'as une scène de dialogue entre deux personnages et qui dure 5 ou 6 minutes et que pas un plan de coupe, c'est un plan. Non, mais si, c'est un plan séquence aussi. Après.
Oui, mais la caméra reste fixe.
Il pourrait faire champ contre champ.
C'est un plan fixe, quoi.
Oui, mais bon, directement, ça reste un plan séquence. C'est pas les. Non, mais là, la capacité, elle vient pas du cinéaste. Ouais. Elle vient des acteurs qui doivent apprendre leur texte et qui doivent être bons, en fait. Tu vois.
Oui.
Et on le voit pas souvent, ça, au ciné. C'est souvent coupé, c'est souvent. Oui. Et bah, je trouvais que dans Reservoir Dogs, la scène dans le hangar, c'est limite même du théâtre.
Dans Pulp Fiction aussi, ça marche aussi.
Ouais, bien sûr.
Mais après,
Reservoir Dogs, le Tarantino, c'est vrai qu'il fait partie de ses réalisateurs. Je suis pas fan de Tarantino, hein, je tiens à préciser tout de suite. Il fait partie de ces réalisateurs qui sont bourrés d'énergie et qui ont une idée précise de ce qu'il veut faire. C'est des réalisateurs qui sont un petit peu qui ont pas la science infuse, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais qui sont surdoués, qui savent ce qu'ils veulent.
Ils ont leur patte,
et
quoi.
Ça dès le premier film.
C'est quoi la patte de Tarantino?
Tu vois Reservoir Dogs, t'as tous les ingrédients du futur de Tarantino, quoi. Ouais. Le montage ultra dynamique, la bande son pop rock,
pop rock pas que en fait pas ça que. S'adapte au, oui, ça, au genre ça, de film, c'est pas pop rock, c'est un travail sur la bande son,
il y a un travail sur la bande son
si tu exclus les derniers, c'est-à-dire Inglourious Basterds Les 8 salopards, et tu prends Pulp Fiction, Jackie Brown, Reservoir Dogs, Boulevard de la Mort. C'est quand même relativement pop rock. Après, il a été chercher des trucs, il a été pioché chez les
mômes. Il n'y a pas
tant
de musique que ça au final, hein, dans Jackie Brown.
Non.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Et c'est justement l'une des critiques que je ferai par rapport de Jackie Brown par rapport à un film comme Reservoir Dogs où tout était vraiment à sa place, où c'était dynamique, où c'était bien monté, où il y avait rien de gratuit, si tu veux. Dans Jackie Brown, il y a des scènes qui sont complètement gratuites.
Parce qu'il est trop long.
Non, même en dehors de ça, il y a 4 scènes, si j'ai bien compté, dans le film, où les personnages montent dans leur voiture, allument l'autoradio, fin de la scène.
Ah oui, non, mais ça c'est le cinéma de Tarantino. Tarantino, il filme les voitures, en fait.
Il ne se passe rien, mais ça ne sert à rien. Mettre, bon, bah voilà, il a allumé la radio. Ok, on a casé cette chanson. Regardez, cette chanson, elle est cool. Hein.
Et le.
Suivant.
Et le. On va dire le paroxysme de ça, c'est les 8 salopards, en fait, où t'as toute la moitié du film qui se passe dans une calèche, en fait. Je veux dire, Tarantino, il a toujours filmé les intérieurs de voitures. Je veux dire, il se passe pas mal de choses, même dans Pulp Fiction, à l'intérieur d'une bagnole. Ça a toujours été.
Oui, mais il se passe.
Peut-être un de ses.
Oui, mais il se passe des choses. Il n'y a pas de problème. Il se passe des choses, comme dans Reservoir Dogs. Il y a toute une scène qui se passe même plusieurs scènes qui se passent dans une voiture. Il se passe des choses, c'est intéressant. Là, c'est vraiment une scène.
Ça
coupe, la scène commence. Le gars, il rentre dans sa voiture, il allume la radio, il fait passer un truc. Oh, regarde, c'est de la musique cool. Tac, ça coupe, on passe sur totalement autre chose. Ça, c'est de la scène gratuite qui n'apporte strictement rien. Je suis désolé.
Oui, non, mais bon, après, le film est trop long.
Que le film soit trop long, il y a aussi des interprétations intéressantes. Pam Grier qui joue Jackie.
Grier. Pam Grier.
Pam Grier.
Grier. Pas Grier. Grier.
Oui, je sais pas.
Pam Barbecue.
Son personnage est très intéressant et elle l'interprète très très bien.
C'est vrai. Elle fait très très bien. Et puis c'est
pas une actrice qu'on a beaucoup vue avant ni après. Mais dans ce rôle-là, elle est
avant, si, elle était pas mal dans la. C'est pour ça qu'elle a été prise d'ailleurs dans ce qu'ils appellent le mouvement Black Exploitation, en fait.
Oui, sortie de ce style-là, on l'a pas.
Justement, c'est Tarantino qui va fait appel à des acteurs qui sont un petit peu en perte de vitesse. Il aime bien faire ça.
L'acteur qui joue le prêteur sur gage, là, je sais pas comment il s'appelle. D'ailleurs, c'est mon préféré dans le film. Non, mais moi, j'ai pas. Alors après, une fois de plus, on peut dialoguer longtemps là-dessus, mais j'ai pas trouvé ce film beau, en fait. Enfin, c'est tout tourné en studio. Alors, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais je trouve que c'est mal éclairé. Enfin, en fait, j'ai vu il y a pas longtemps Portrait de la jeune fille en feu. Ça a rien à voir avec Tarantino.
Mais
ça m'a renivelé en fait tous mes critères de beauté en fait esthétique on va dire d'un film et je trouve que celui-là il a bon alors après il est de 98 hein, donc il est quand même
il a plus de 20 ans
donc mais je trouve que ça se voit et je trouve que c'est comme les vieilles voitures en fait la Renault Fuego c'est moche. Mais parce que ça n'a pas eu encore la patine du temps. Et là, je trouve que ce film de Tarantino, il est dans une période où les films de cette époque-là sont moches parce qu'il y a la patine encore. C'est pas devenu des classiques. Ils n'ont pas un classique au niveau esthétique.
Ah, je sais pas. Moi, je trouve que dans les années 90, ce film fait vraiment années 90. Quand tu le vois, il a la.
Bah, il a tout.
Il a la qualité la qualité d'image fait années 90. Moi, ça m'a pas choqué. Effectivement, oui. Mais après, si tu le mets en comparaison avec des films
plus récents,
même pas forcément plus récents, mais dont le principal but, l'un des points les plus importants de ce film est le travail sur la photographie. C'est sûr qu'il sera toujours moins beau.
Surtout que c'est
Tarantino, je suis pas sûr que ce soit un grand adepte de la photographie. C'est pas son délire. Lui, son délire plutôt, c'est le montage,
oui,
quoi.
Même le montage, moi, j'ai pas trouvé ça. Ok.
Avec la fameuse. Qui est très Tarantino-esque, là, de diviser l'écran.
Ouais.
Ça c'est très Tarantino, ça aussi.
J'ai pas trouvé ça pertinent, enfin, tu vois.
Mais j'ai l'impression qu'il le fait moins, ça.
Il se recycle un petit peu aussi.
Mais le début, il commence qu'avec des références de films, et moi, ça m'a saoulé. Enfin, juste le générique de début. C'est le lauréat et je me suis fait allez étale nous ta culture voilà après il parle 5 minutes après il parle d'un autre film
c'est très Tarantino
ouais
ça,
mais ça me saoule
il parle
en fait.
Beaucoup c'est bourré de références les films de Tarantino aussi
tu prends Boulevard de la Mort c'est pété de références
ouais mais je sais pas moi les
tous en les fait, films de Tarantino à plus ou moins différentes échelles
puis c'est en fait un des critères qui fait que j'ai pas spécialement envie de voir même s'il doit raconter autre chose il était une fois à Hollywood c'est que j'ai vu sur internet plein d'images parce qu'il a dû recréer des films d'époque où j'ai vu DiCaprio et puis l'image dans laquelle était tiré le film, en fait, et je... Ouais, des fois, c'est ça. Pendant longtemps, il voulait faire du western comme Sergio Leone. Il a même embauché Ennio Morricone.
Ouais.
Enfin, moi, si je veux voir du Sergio Leone, je regarde Sergio Leone. Je regarde pas quelqu'un qui copie Sergio Leone, même si, en plus, je trouve pas spécialement qu'il fasse ça bien, moi, mais bon.
J'ai pas trouvé que les 8 salopards rappelaient Sergio Leone. Enfin, rappelaient, si, non, donc, forcément, parce que
même lui-même, il le dit. Donc,
oui, mais c'est une référence. Donc, mais après, enfin, voilà.
J'aime bien tester plein de genres différents. Là, Jackie Brown, c'est plus un rapport à la Blaxploitation. Expectation.
Non, mais ça, effectivement.
Même s'il est lointain, quoi.
Effectivement, ça, c'est un truc qu'on peut pas lui reprocher. C'est que chaque film, après, il y a eu les Kill Bill qui sont plus dans les.
Dans les films asiatiques.
Les films asiatiques, voilà, de combat. Non, ça, c'est sûr qu'il.
Oui, il fait toujours un ou deux films dans le même délire.
Et puis, il arrive, alors après. Bon, c'est vrai que celui-là, il m'a pas marqué si à part bon, comme je disais, Le Prêteur sur gage, mais il arrive aussi. Je pense que il l'avait fait avec Pulp Fiction. J'ai l'impression qu'il a essayé de le refaire avec celui-là, c'est sortir des acteurs de l'ombre, des acteurs qui étaient plus connus.
Puis c'est un film qui est entre justement Pulp Fiction et Kill Bill, quoi. Donc il a les avantages et les inconvénients d'être entre
ouais,
deux.
Il a surtout, je pense, à l'époque, il a eu le désinconvénient d'être juste après Pulp Fiction. Donc, oui.
J'ai jeté un œil aux critiques de l'époque, ils l'ont pas défoncé, hein, loin de là. Ils l'ont trouvé peut-être pas au niveau de Pulp Fiction qui a été.
Encensé.
Voilà, merci. Mais il a pas été détesté, loin de là. Après, moi, si je résumais ce que je pense de ce film, c'est un film qui est plus modeste que Pulp Fiction. C'est un film qui se regarde, qui est sympathique.
Après, est-ce que ça va au-delà de ça ? Pour moi, ça n'a pas été au-delà de ça. C'est un film sympathique qu'on prend plaisir à suivre malgré la petite demi-heure de trop, notamment le début qui est assez laborieux pour mettre en place le nœud narratif qui consiste à chacun va bourrer le mou, va se bourrer le mou pour avoir le magot. C'est parce que c'est ça qui nous intéresse dans ce film. En dehors de ça, ce film-là, il raconte pas grand-chose d'intéressant et c'est long à se mettre en place.
Bah c'est ce qui est dommage.
C'est globalement sympathique à suivre.
Ce qui est dommage, c'est ce qu'il a déjà fait ailleurs, c'est de commencer par l'action et de revenir vers du flashback sur des choses qui sont plus anciennes. Là, il ne l'a pas fait. C'est peut-être ce qui aura manqué à ce film pour le rendre un peu plus dynamique.
C'est possible, oui.
Mais il est capable de le faire. Il l'a déjà fait dans plein de cas.
Bah, Reservoir Dogs, c'est ça.
Il voulait peut-être tester autre chose. Ouais. Je me souviens plus si dans Pulp Fiction il utilisait ça, mais dans Jackie Brown il utilise le principe de raconter la même chose selon tous les points de vue des personnages.
Bah, pas tous, mais sur
les principaux, en tout cas.
Enfin, dans Pulp Fiction, à un moment il y a le
Je me souviens plus de ce passage-là.
Le nom des personnages là, c'est Bruce Willis en fait qui rentre dans le bar où il y a le Black. Et en fait, on a le point de vue de Bruce Willis, mais avant, on avait le point de vue de celui qui se faisait torturer, en fait. Enfin,
Et puis t'as aussi dans le bar où t'as les deux qui braquent le bar, et puis après tu as Samuel Jackson et John Travolta qu'on voit la scène de leur point de vue à la fin du film. Donc.
Oui, c'est ça. Mais après, c'est aussi une caractéristique du cinéma de Tarantino. L'écran divisé, les bandes sont travaillées,
il l'a fait plusieurs fois, narration. Il l'a fait à chaque fois.
Ouais, après, je sais pas si.
Il l'a fait au moins sur ses trois premiers films. Kill Bill, je me souviens plus.
Je crois pas.
Mais il l'a fait au moins sur ses trois premiers films.
Boulevard de la mort, il le fait pas. Après, il le fait pas.
Ouais, il s'est peut-être lassé.
Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter.
Oui, je crois qu'on
on a donné notre avis
général.
Après, honnêtement, si on veut conclure sur Tarantino, qu'on aime ou qu'on aime pas, je trouve que ça serait que c'est dommage de passer à côté de ses films, parce qu'il a quand même des choses à raconter. On peut ne pas aimer. Voilà, moi je suis pas particulièrement fan
Je sais pas si c'est dommage de passer.
Quant à Tarantino, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou Quentin, comme tu l'aimes à l'appeler, c'est quand même un grand réalisateur. C'est un réalisateur qui a des choses à raconter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses films, sa mise en scène est toujours intéressante. Voilà, moi je trouve que c'est dommage de passer à côté de Quentin Tarantino sous le prétexte que sa filmo nous parle pas. Au moins regarder un ou deux de ses films.
Les plus connus.
Pour moi, Quentin Tarantino fait partie des réalisateurs américains incontournables actuels.
Non, mais ça c'est sûr.
On va s'enchaîner en s'écoutant Street Life.
On va enchaîner.
Mmh. Et Street Life de Randy Crawford, qui est dans la BO de Jackie Brown. Et on se retrouve tout de suite. You walk, you talk. On va continuer avec La jeune fille en feu.
Le portrait,
le portrait de la jeune fille en feu. Ah mince. Ah tiens, tu en parlais juste avant. C'est étonnant, Antoine.
Ouais. Transition, que nous crions ton nom.
Que peux-tu.
J'aimerais qu'on m'appelle Monsieur Transition, parce que là, pour le prochain épisode. Quand on a vu que les nominations des Césars avaient été lancées, j'ai regardé donc les nominations pour les meilleurs films de l'année et je les avais tous vus, enfin presque, et donc j'avais pas vu Portrait de la jeune fille en feu. La bande-annonce m'avait pas du tout intéressé. On se retrouve à... Je vous conseille même pas de la regarder parce qu'on est dans la, je pense, on est dans tous les clichés que le film d'auteur peut avoir. Donc c'est-à-dire peu de décors, pas de musique, deux actrices, 2,5 actrices. Enfin bon, c'est très minimaliste, mais alors dans tous les sens du terme. Mais j'avais envie de le voir justement, et j'ai pris une de ces claques. Mais j'en avais, je pense. Peu pris, enfin en tout cas depuis longtemps, et j'ai été submergé. Alors bon, je sais que le scénario c'est difficile, enfin le scénario on peut l'écrire sur un post-it, il est pas très épais, hein.
C'est pas un film à récit.
Non, tout à fait. Mais mine de rien, c'est comme quoi, si un film tient sur un post-it, il peut y avoir de l'émotion qui est là, et qu'au final
il faut juste que le post-it soit pas écrit par Luc Besson.
Voilà.
C'est tout.
Non, mais pas que, hein. Il y a pas que ça.
Oh, pas que. Non.
La représentation, les actrices aussi.
Noémie Merlan et Adèle Haenel.
Moi, je la connaissais pas, Noémie Merlan.
Moi non plus.
Alors Adèle Haenel, on peut lui reprocher de faire du Adèle Haenel. Donc, c'est-à-dire quand c'est tout le regard, hein, cette fille. Moi, j'ai toujours trouvé l'impression qu'elle était en colère. Bon, depuis, il y a eu les révélations de Mediapart, donc je me dis, ouais, c'est peut-être là la colère en fait que je voyais en elle. Mais non, c'est absolument. Enfin, je pense que c'est un film qu'il faut voir. En fait, alors j'ai vu qu'au cinéma, il avait fait que 200 000 entrées, donc c'est vraiment rien.
Je suis pas d'accord.
De quoi?
200 000 entrées pour un film français d'auteur dramatique, c'est pas mal.
274 000.
Je crois qu'il fait partie des 10 meilleures exploitations des films français de l'année. Je crois qu'il est dans les 10, dans les 10 premiers.
Bah ça dit beaucoup de l'État.
Ouais, mais 200 000 entrées ne veut pas dire 200 000 euros de recettes. Hein. Ah, donc non, c'est un film.
En France,
qui...
le problème, c'est qu'en France, on parle. C'est ça qui est des fois difficile, c'est qu'on parle en entrée. Oui. En entrée. Alors, après, on sait pas.
Mais après, non, franchement, ce film, il a bien. Enfin, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film d'auteur, pas forcément tout public, pas une comédie.
Mais même pas, en fait, tout public, parce qu'au final, il est pas. Il est facile d'accès au final. L'histoire, elle se comprend.
Non, je suis pas d'accord avec le fait qu'il soit facile d'accès. Mais au fait, on a mis la charrue avant les bœufs, parce que du coup, on n'a pas parlé de quoi ça parlait. En fait, ça parle Marianne, qui est interprétée par Noémie Merlan, qui arrive dans une famille pour peindre. Héloïse, qui est jouée par Adèle Haenel, la fille qui doit se marier. Et en gros, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, le cadeau de mariage, un portrait d'elle, en fait. Elle peut pas se marier avant d'être peinte. C'est un peu la condition, entre guillemets. Héloïse refuse d'être peinte parce qu'elle a pas envie de se marier, tout bonnement et simplement, quoi.
Elle veut être papin, comme Jean-Pierre.
J'espère que tu mettras une cymbale à ce moment-là.
Je sais pas, j'hésite encore.
et du coup, elle va devoir la peindre, mais en traître, entre guillemets, en l'observant et en peignant en scred dans sa chambre pendant qu'elle a le dos tourné. Bon, voilà, après on va pas plus loin parce que sinon ça dévoile un petit peu le ressort narratif de l'histoire, parce que le scénario est relativement simple. Après, là où je ne te rejoins pas sur le fait que c'est un film qui est facile d'accès, c'est pas un film qui est facile d'accès, même si le scénario est simple, parce que justement c'est un film qui est très qui est contemplatif, qui est beaucoup plus visuel sensitif que narratif, en fait. Et mine de rien, faut accepter de rentrer dans une salle de cinéma et de dire que pendant 2 heures, tu vas observer des beaux paysages et on va te demander de ressentir des trucs et pas de suivre une histoire, en fait.
Moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une, ça racontait quelque chose.
Ça raconte quelque chose.
J'ai pas trouvé ça difficile. Alors après, oui, c'est sûr que, mais j'ai envie de dire que c'est comme n'importe quel film que t'as pas envie de voir, c'est difficile de le voir vu que par principe t'as pas envie de le voir. Mais moi j'ai eu envie de le voir ce film et franchement, alors oui, c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas envie d'aller le voir au ciné, alors je sais pas pourquoi. En plus, bon, on l'a pas dit, donc la réalisatrice c'est Céline Sciamma.
Céline Sciamma, ouais.
Donc le film est Caméra d'or à Cannes. Il a fait pas mal de festivals en fait.
Oui, il a bien marché en festival. Il a bien marché en festival.
Non, moi je l'ai trouvé assez compréhensible. Enfin, justement, il pourrait avoir un côté un télo écrasant.
Non, c'est pas ça.
Moi, j'ai pas trouvé. Alors oui, il y a des non-dits. Oui, il y a des choses qu'on devine. Ou bon, après voilà,
l'histoire. C'est un film sensoriel plus que narratif. Hein. Ça je maintiens. Mais c'est tellement bien fait que après. Faut être tapé dedans, quoi. Ça a marché complètement. J'étais en train de tomber amoureux d'Adèle Haenel en même temps que Noémie Merlant. Moi, j'ai des études.
Mais c'est vrai que comme le film traite de peinture, en fait, il y a un énorme travail fait sur la photographie. Et il y a plein de plans où moi j'avais l'impression de voir des peintures de l'époque. Ça veut rien dire parce que je suis incapable de la dater. Mais quand j'ai visité des musées de peinture historique.
Ça ressemble.
Ça ressemble beaucoup. Ouais, non, j'ai trouvé ça et je me disais, mais chaque plan devait être chiadé. Pourtant, il y a 3 actrices, il n'y a pas de musique, il y a 3 décors. Enfin, je veux dire, c'est
très peu.
Il y a 2 décors qui tournent, qu'on voit toujours.
C'est, très c'est un film c'est très minimaliste.
C'est intimiste.
Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. C'est un film intimiste.
Et moi j'ai pris une claque en le regardant. Enfin, je veux dire, si je l'avais vu en 2019, c'était tout de suite un de mes top. Il faisait partie de mon top 3. Hein. Donc j'espère que voilà.
Ouais, très très beau film qu'on recommandait chaleureusement par l'équipe de.
Ce plan final, qui est un procédé d'ailleurs qu'on revoit dans qui est beaucoup utilisé dans 2 jours et 1 nuit.
Les frères Dardenne.
Ouais, je trouve ça, mais cette espèce de plan fixe sur le personnage en fait quand elle est à l'opéra là, un plan mais qui dure, mais je sais pas combien de temps il dure. Moi j'ai l'impression qu'il durait 1 heure en fait. Enfin, et on voit toute l'émotion qui se dégage du personnage, mais c'est. Pff,
ouais, enfin, mais il y a les 4 saisons. Il y a l'été de Vivaldi en fond. En fait, on attend le plan dure le temps du mouvement.
Ah ouais, je sais pas. Ouais,
le plan dure tout le temps du premier mouvement de l'été, le concerto de Vivaldi.
Ah ouais, bon, ça m'a dépassé. Mais puis on aura dit, mais vas-y, retourne-toi. Et non, rien.
Non, retourne pas.
Ah, quelle violence.
C'est pas fait pour être satisfaisant.
Non, en fait. Ouais, c'est beau. Voilà. C'est rare de voir des films qui sont beaux.
Ok. Bah pourquoi pas. Petite information, comme ça au hasard. Dans les films de 2019, il y en a quand même un certain nombre qui ont fait 1 million, voire 2 millions.
Non, mais
200 000, pour en citer un ou deux qui sont encore à l'affiche, t'as Au nom de la Terre qui a presque 2 millions.
D'entrée ou de recette?
D'entrée.
2 millions d'entrée.
Ah bah en France,
c'est 2 millions d'entrées.
Bah oui,
il cartonne. Le nombre d'entrées. Hein.
Non, mais de toute façon, c'est en France, l'entrée. Hein.
Ouais, c'est plus 1 million de spectateurs. Donc
c'est ça qui est pénible, c'est que tu ne peux pas comparer avec les États-Unis où ils parlent
en argent.
Ouais.
Ah, tu peux avoir les 2 informations, mais il faut chercher.
Il faut chercher, ouais, j'ai jamais trouvé.
Donc voilà, des 1 million d'entrées, il y en a quand même.
Non, mais il y en a plein. Moi, je trouve que 200 000,
c'est pas énorme. C'est pas énorme.
Attends, tu prends Robin des Bois avec Max Boublil, il a fait 500 000 entrées.
Oui, le meilleur film, voilà.
Celui qui a fait le plus d'entrées en français en 2019, c'est Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu.
Oui,
bon.
Mais voilà.
6 millions 7.
Voilà. J'ai envie de te dire, le public qui va voir qu'est-ce qu'on fait encore au bon Dieu, il va pas voir une portée d'une jeune fille en feu.
Tu sais pas, hein, après. Tu peux. Non, mais pourquoi pas. Moi, j'ai vu les deux.
Mais
on ne peut pas juger.
Mais
200 000 ou 275 000, c'est pas beaucoup.
Au-delà du jugement que tu peux avoir à tort ou à raison, c'est pas le sujet. C'est pas une histoire de jugement. C'est une histoire de la personne. Une personne qui va voir Qu'est-ce qu'on va faire au bon Dieu ne va pas rechercher la même chose dans le cinéma que quelqu'un qui va voir le portrait de la jeune fille en feu.
On se retrouve la semaine prochaine, le lundi à 14h. Et bonne continuation sur Studio Z.
C'est pas mercredi à 20h ?
Non.
Ah bon, ça a changé.